Ainsi donc, dans cette période de l'Avent, il est d'usage de parler de cette personnalité très, très attachante de Jean-Baptiste. Or, il est un passage dans Matthieu extrêmement mystérieux à son égard. Quand Jésus dit « Dans les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent ». On ne comprend pas très bien ce que veut dire ce passage, cette histoire de violents qui ravissent le royaume de Dieu, et on ne comprend pas non plus très bien quel est le lien avec Jean-Baptiste. Alors la question pour comprendre ce verset, c'est de savoir d'abord si Jésus pense que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, que ce soit les violents qui ravissent le royaume de Dieu, et cela depuis Jean-Baptiste. Alors vous pouvez lire tous les commentaires que vous voudrez. On en trouve en fait un certain nombre, assez peu chez les pasteurs de nos églises réformées ou luthériennes, de l'Église protestante unie, mais on trouve de très nombreux commentaires de ce verset, surtout dans les églises de plus radicales, et en particulier dans les milieux évangéliques. Parce que la plupart du temps, donc, ce verset est utilisé comme si Jésus approuvait cette chose-là, en disant que c'est en effet bien qu'il en soit ainsi, parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut arriver à gagner par une sorte de violence. Alors, ils vont tous essayer de chercher ce que peut signifier le verbe « biasé », qui veut dire en grec « faire preuve de violence ». Et les commentateurs disent « il ne s'agit pas tellement de faire preuve de violence, mais un petit peu de se faire violence à soi-même ». Parce que peut-être est-il bon, justement, que pour accéder au royaume, pour accéder au Christ, il faut se faire violence et il faut avoir une discipline personnelle, une rigueur et une vigueur sans laquelle on n'a aucune chance d'accéder au royaume de Dieu. Et il est vrai que cela n'est pas incohérent avec un bon nombre de prédications du Christ lui-même ou d'autres passages du Nouveau Testament. On pense en particulier, bien sûr, à ce célèbre verset sur la porte étroite, quand Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui le trouvent, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. » Et il est vrai que dans cette citation du Christ « Efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite », le verbe qui n'est pas le même que celui dans le verset que je commente, néanmoins, agonisomé veut dire lutter et vraiment se donner une sorte de mal terrible pour arriver à y parvenir. Et on va trouver aussi, il est vrai, dans d'autres passages du Nouveau Testament, bien des passages, bien des endroits qui montrent qu'il faut lutter pour arriver dans le royaume. On connaît bien sûr 1 Timothée 6,12, où Paul dit à Timothée, donc, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. » Et puis surtout, ce même Paul, qui dans sa lettre aux Corinthiens, fait tout cet éloge des sportifs, vous savez, qui luttent dans les jeux du stade pour obtenir le prix. Et il dit, pour nous, c'est la même chose. Si nous voulons accéder au prix du royaume, eh bien, nous devons lutter et faire subir à notre corps, à notre vie, toutes sortes de contraintes et de difficultés. Paul dit, voici, je traite durement mon corps, je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Et donc, c'est vrai que nous avons toute cette tendance dans le Nouveau Testament qui peut être l'explication de ce passage, toute cette tendance d'une foi héroïque et qui a été d'ailleurs reprise très largement dans notre christianisme lui-même avec l'armée du salut. L'armée du salut qui aujourd'hui fait des tas d'œuvres extraordinaires vis-à-vis des plus démunis, mais l'armée du salut c'était justement cette vision guerrière, batailleuse de la foi. où on chante aussi des tas de cantiques guerriers dans nos assemblées de temps en temps, debout sainte cohorte. Et donc voilà, la foi est un combat et il faut, pour accéder au royaume, lutter, se battre, lutter contre le mal, lutter contre le péché, lutter contre toutes les faiblesses qu'il y a en nous-mêmes pour essayer d'accéder à quelque chose qui est difficile à atteindre. Cela est certainement en partie vrai et on pourrait comprendre de quoi il s'agit, puisque Jésus dit dans notre passage de Matthieu que ça c'est vrai depuis la venue de Jean-Baptiste. Et il dit que l'explication de cela, c'est que Jean-Baptiste, eh bien c'est Élie. Alors là, il faut un petit mot d'explication, pardon pour ceux qui le savent déjà, mais dans la pensée juive de l'époque, on pensait que le prophète Élie devait revenir avant le Messie. Parce que Élie, le prophète, n'était pas mort en fait. Le texte dit qu'il avait été enlevé dans un tourbillon de feu, dans un char de feu, et donc on n'a retrouvé nulle part son corps. Et il pensait que Élie devait revenir et que le retour d'Élie marquerait l'imminence de la venue du Messie. Et c'est ainsi que Jésus dit que en fait Élie est représenté par Jean-Baptiste. Et que par conséquent, depuis ce moment-là, nous sommes dans l'imminence de la venue des temps messianiques. Et que par conséquent, ça changerait tout. Parce que avant cela, les gens vivaient dans les promesses des prophètes, et donc on avait le temps, en quelque sorte. Et puis tout à coup, depuis Jean-Baptiste, on sait que le Messie va venir, et que donc ça va être l'accomplissement des temps, et que maintenant, il faut s'y mettre, autrement dit. Fini le temps où l'on attend. Il faut maintenant s'y mettre, se bagarrer, se préparer pour accueillir le Seigneur et pour être prêt au bon moment. C'est comme ça donc que c'est annoncé, que c'est interprété le plus souvent ce passage. Et il est vrai que, en fin de compte, le Christ lui-même, il faut bien le dire, a eu parfois un discours très radical. Et il est vrai que le royaume de Dieu n'est pas qu'une sorte de dessert sucré offert à tout le monde, mais c'est quelque chose pour lequel il faut combattre. Mais en même temps, j'ai du mal à mettre beaucoup de conviction dans ce type de prédication. Parce que, dans le fond, ça ne me convient pas, je vais vous dire. Ça ne me convient pas, et ce, pour plusieurs raisons. Pour des raisons théologiques, que je vais vous exprimer tout à l'heure, et même pour des raisons très fortement exégétiques, de respect du texte lui-même. Parce que d'abord, nos commentateurs exhortatifs ont beau dire, le mot utilisé là pour parler des violents et des violences n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament dans un sens positif. Premier point. Deuxième point, nos commentateurs sont jamais capables d'expliquer le dernier mot de la phrase qui est de s'emparer du royaume de Dieu. Il dit « les violents s'emparent du royaume de Dieu ». Et le mot « s'emparer », vous pouvez faire comme vous voulez, il est toujours négatif. Et donc, Jésus ne dit pas « il faut une certaine vigueur pour accéder au royaume de Dieu », ni même pour le recevoir, mais il dit bien « s'emparer ». Et « s'emparer », c'est prendre de force, voler contre la volonté de celui qui le détient. Et donc, il y a bien, je crois, dans ce verset, l'idée qu'il y a des gens qui font quelque chose de mal vis-à-vis du royaume de Dieu, que ce n'est pas la bonne démarche. Et puis, effectivement, je crois que par ailleurs, d'un point de vue théologique, certainement la prédication du Christ est parfois vigoureuse, mais en même temps, Jésus a dit « heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Il n'a pas dit « heureux les batailleurs, car ils s'empareront du royaume ». Et donc cette espèce de verset isolé de l'ensemble de l'Évangile me semble fondamentalement contradictoire avec ce que je lis de 90% de l'Évangile. Jésus n'était pas un violent. Je ne crois pas. Jésus n'était pas un violent. Au contraire, il est l'image même de la non-violence. Et même la religion qu'il prêchait n'était pas, je crois, une religion violente. C'est au contraire une religion non-violente, une religion qui accueille. il avait un rapport à Dieu fondamentalement tolérant, il faut bien le dire, vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas de sa propre religion, vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas bien comme il faut, vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis d'un très grand nombre. Jésus était fondamentalement compréhensif pour les faiblesses des gens, et à ma connaissance, mis à part ce passage, oui, sur la voie étroite, il n'a jamais dit à la femme adultère « Reprends-toi, combat, prends-toi en main, lutte contre le mal qui est en toi, peut-être qu'un jour tu arriveras à accéder au royaume. » Il lui dit simplement « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Voilà. Et donc ça me semble, tout cela me semble fondamentalement incohérent. Et puis, si on lit la suite du texte de Matthieu 11, on s'aperçoit que, par ailleurs, ce texte ne sont que des reproches, que des reproches. Et il n'y a pas, à la suite, de louanges à l'égard de tous ceux qui font preuve d'une virile assurance pour se maintenir dans le bon chemin. Au contraire, ce ne sont que des reproches vis-à-vis de ceux des pharisiens qui, justement, essayent de s'imposer une discipline de fer, une pratique rigoureuse, vis-à-vis de tous ces gens-là qui vivent la foi avec vigueur, avec force, avec des contraintes, eh bien, ce ne sont que des critiques vis-à-vis de ces gens-là. Et il leur dit « Vous êtes même pire que les gens de Sodome et Gomorre. » Ça n'est pas rien. Et donc, je pense que, effectivement, tout cela ne colle absolument pas. Et Jésus va conclure son discours avec deux textes absolument extraordinaires quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Je vous donnerai de la force pour combattre », il dit « Je vous donnerai du repos. Venez et je vous donnerai du repos. » Et il conclut par ce passage sur les petits-enfants en disant « Je te loue, Père, de ce que le royaume de Dieu, tu ne l'as pas révélé aux forts, aux grands et aux intelligents, mais aux petits-enfants. » Et les petits-enfants sont bien gentils et mignons, mais en général, ce ne sont pas l'exemple même de la violence pour s'emparer des choses. Ils n'en ont évidemment pas la force. Alors, il faut repenser cette histoire de violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et il me semble que la clé de l'affaire, c'est que Jésus, pour expliquer ce qu'il veut dire, dit « Je vais vous dire une chose ». Tout le monde attend Élie avant le Messie. Eh bien, Élie, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est Élie. Voilà, je vous ai tout dit, maintenant débrouillez-vous pour comprendre. Et donc, il faut se demander qui était Élie. Revenons en arrière. Revenons en arrière et regardons qui était le prophète Élie. Le prophète Élie, on nous raconte sa vie dans le premier livre des Rois. Et on nous dit que c'était un très grand prophète. Effectivement, plein de zèle, plein de vigueur, plein de force, plein de violence. Tiens, c'est vrai. Élie était un violent, fondamentalement violent, tellement violent qu'il va se faire démettre de ses fonctions par Dieu. C'est rare, hein ? Dieu va lui dire à la fin, « Bon, Élie, ça suffit. Tu t'en vas et tu laisses la place à Élisée. » C'est-à-dire qu'il est limogé de son rôle de prophète. Et pourquoi est-il limogé ? Parce qu'il est violent. Et toute l'histoire d'Élie va tourner là-dessus. Élie, ce qu'il va faire de pire, dirais-je, vous savez, c'est ce grand duel avec les idolâtres, les prêtres et les prophètes de Baal. Et il fait un grand duel de puissance pour voir qui a le Dieu le plus puissant, justement. Et il démontre que son Dieu à lui est plus puissant. Et ayant gagné le duel, il va de ses mains massacrer 450 prophètes de Baal. Il va zigouiller, tuer, égorger 450 prophètes de Baal pour montrer que son Dieu est le plus grand, le plus beau et le plus fort. Bel exemple, mais Dieu n'est pas du tout d'accord. Et ensuite, Élie va subir des tas de problèmes, évidemment, ça ne passera pas inaperçu, son histoire. Et il va se plaindre auprès de Dieu en disant « Mais Seigneur, regarde, moi j'ai mis tout mon zèle pour toi, toute ma force, et voilà ce qui m'arrive, je suis réduit à être pourchassé et réduit à rien. » Et c'est là qu'il y a ce si beau passage bien connu et à juste titre de Dieu qui fait une leçon à Élie et qui le fait sortir de sa grotte. Et il y a un grand ouragan, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan, une grande tempête, Dieu n'était pas dans la tempête, un orage, du tonnerre, il n'y était pas, dans le feu même, il n'y est pas, et puis un son doux et subtil, et Dieu était présent dans le son doux et subtil. C'est l'ultime leçon que Dieu donne à Élie avant de lui dire « Maintenant, tu t'en vas et tu laisses ta place à Élisée qui te succédera. » Et donc je me dis « Tiens, il y a là quelque chose de cohérent. Élie, c'est la violence. Élie, c'est la religion intolérante. Élie, c'est la brutalité. » Et justement, le Christ nous dit « Jean-Baptiste, depuis Jean-Baptiste, on est comme ça, dans une période de violence et de brutalité. » Je croyais avoir trouvé, jusqu'à ce que je me dise que malheureusement, c'est peut-être une fausse piste, parce que Jean-Baptiste, c'était un gentil garçon. Jean-Baptiste ne faisait peur à personne, il était bien brave dans son désert avec son manteau de chameau, à manger des sauterelles. Enfin, Jean-Baptiste n'était pas un guerrier, il ne pourfendait personne. Et donc on ne voit pas très bien comment ça peut faire. Jean-Baptiste était plutôt doux. Alors qu'en est-il? Eh bien, je pense que peut-être que d'une certaine façon, cette douceur de Jean-Baptiste est plutôt feinte. Parce que, en fait, si on regarde Jean-Baptiste, peut-être qu'il n'était pas violent physiquement, mais son discours, il était quand même remarquablement dur et violent. Jean-Baptiste, il prenait les gens et lui disait « Vous avez intérêt à confesser votre péché, parce que sinon, vous périrez en enfer. Déjà, disait-il, la cognée est mise à la base des arbres. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Ça rigolait pas avec Jean-Baptiste. Et ensuite, les gens venaient terrorisés en disant « Mais alors, qu'allons-nous faire ?» Et ils donnaient des conseils. « Alors vous, les militaires, faites ceci, n'abusez pas de votre pouvoir. Vous, comportez-vous de telle manière. » Et donc Jean-Baptiste, non, ce n'était pas un doux. Jean-Baptiste était l'image même de la religion rigoriste, l'image même de la religion ascétique, parce que ça aussi, c'est une violence pour moi, de dire, vous voulez vivre la religion, vous devez aller dans les déserts, vous retirer et vivre pauvrement en ne mangeant que des sauterelles. Ça, c'est rigoureux, ça. C'est de la violence intellectuelle, de la violence morale et psychologique. Le Christ n'était pas comme ça. Lui, il n'était pas dans les déserts, il mangeait bien et il buvait bien. C'est d'ailleurs ce qu'est dit le texte, à un tel point qu'on le lui reprochait. Et on disait « Ah, Jésus, c'est un glouton et un ivrogne ». Pas mal, ça. Ah oui, ça, Jean-Baptiste, lui, c'était ni un glouton ni un ivrogne. Hein. Il était bien comme il faut. Il ne buvait que de l'eau, mangeait que des sauterelles grillées. Très bien, très beau. Mais n'est-ce pas justement ça, la violence ? Quand le discours même de la religion devient exigeant, jugeur, intolérant, moralisateur, et quand le discours c'est de dire « Vous devez donner toute votre vie à Dieu, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur, que votre salut, vous ne pouvez l'obtenir que de Dieu lui-même, en reconnaissant que vous êtes nul, que vous êtes mauvais, que vous êtes petit, que vous êtes fautif, que vous êtes pécheur, et le salut n'est qu'en Dieu parce que lui seul peut laver de vos péchés et vous donner la vie. » N'y a-t-il pas là une violence terrible, finalement, faite dans un discours? Et je pense qu'effectivement, Jean-Baptiste, il est un petit peu comme Élie. Cette espèce de, je dirais, de présentation, celui qui présente une religion dans laquelle il faut tout exiger, une religion dure, alors que le Christ, au contraire, à mon avis, aura justement une vision tout autre de la religion. Une religion douce, une religion qui accueille, une religion qui pardonne. Jean-Baptiste, il est dans le jugement. Jésus, il n'est pas dans le jugement. Il n'est même pas dans le pardon après jugement. Ce que dit l'évangile de Jean et qui est très beau, ce qui fait dire à Jésus en lui disant « Celui qui croit en moi, dit Jésus, il n'est pas jugé. Il est passé de la vie à la mort. » Et donc ce n'est pas comme Jean-Baptiste en disant « Dieu vous juge, mais comme il est grand et magnanime, il vous pardonne. » Bande de larves. Jean, dans l'évangile de Jean, le Jésus, c'est celui qui dit « En Dieu, vous n'êtes même pas jugé, vous êtes déjà reçu, déjà accueilli. » Ça change tout. Le Dieu du Christ, ce n'est pas le Dieu qui met sa cognée à la base des arbres pour couper déjà les arbres mauvais, mais c'est un Dieu de tendresse, de compréhension et de grâce. Et donc je pense qu'effectivement, le Christ fondamentalement, là, condamne, je dirais, cette religion de Jean-Baptiste. Et on a beau dire que Jean-Baptiste, c'est merveilleux et qu'il faut le prêcher au début décembre. Ça fait 25 ans que je dis du bien de Jean-Baptiste. Eh bien, je ne suis pas certain qu'il faille en dire que du bien. Alors bon, peut-être qu'il faut, avant d'accéder à la grâce et au pardon, avoir connu, avoir su ce qu'est la rigueur et l'exigence. Donc, oui, d'accord, Élie doit venir, mais dès que vous êtes passé au Messie, vous abandonnez Élie. Et donc, maintenant, nous sommes dans le Christ et pas chez Jean-Baptiste. Et donc, s'il vous plaît, ne restons pas dans la religion de Jean-Baptiste. La religion du Christ ne nous demande pas de nous abaisser, de nous humilier, de nous flageller, de nous auto-dévaloriser. Mais Jésus, tout au contraire, simplement nous remet debout et il nous dit « tu es un roi et un prince ». Pourtant, Jésus, certainement, n'était pas laxiste pour autant. Ce n'est pas ce que je veux dire. Jésus était très radical dans ses objectifs ou dans ses idéaux. Et je crois qu'effectivement, le chrétien doit garder des idéaux très élevés. Mais en même temps, on peut avoir un idéal très élevé et très fort, tout en étant infiniment tolérant vis-à-vis des autres sur les modes de vie, autrement dit. Et Jésus acceptait les prostituées à sa table, il mangeait, il buvait, il pardonne à la femme adultère sans lui faire d'histoire. Et je pense que c'est là l'essentiel, et ça n'est pas facile, je crois, d'arriver à garder sans céder un pas les idéaux fondamentaux de l'Évangile, les valeurs fondamentales, et en même temps d'être capable d'être compréhensif, doux et tolérant. Et c'est vrai que le Christ a dit « Nul ne peut servir de maître », et donc il faut savoir qui est son maître. Mais la religion, ce n'est pas d'aller se retirer dans un lieu désert pour attendre la fin du monde. La religion, c'est la douceur, la vie, la joie, la tendresse, l'amour, le pardon et la compréhension. Mais il est vrai que dans notre foi chrétienne, il y a toujours des gens qui veulent nous faire peur, nous culpabiliser, nous barder de commandements, d'interdictions, de menaces. Mais la foi, ça n'est pas ça. La foi, c'est une joie et c'est une fête. C'est ce que dit encore le Christ juste après ce verset. Il dit « Nous avons joué de la flûte sur la place du village et vous n'avez pas dansé ». Voilà la religion du Christ. C'est d'être capable de se réjouir et de danser. Jésus vient avec une bonne nouvelle. Et voilà que les chrétiens tirent des têtes d'enterrement en se disant qu'ils sont coupables. Eh bien ça n'est pas la religion du Christ. Et la religion, ce n'est pas non plus un combat. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un combat. Mais le royaume de Dieu, il se reçoit en l'accueillant comme un enfant. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux forts et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Et il y a donc là un drôle de retournement. Le royaume de Dieu n'est pas donné en récompense à ceux qui ont mieux combattu que les autres. N'en déplaise à Paul, qui, à mon avis, fondamentalement, là, se trompe. Le royaume de Dieu n'est pas la coupe que l'on va offrir au vainqueur qui a le mieux couru. Certainement pas. Paul présente les choses comme ça. Jésus, pas du tout. Le royaume de Dieu, il ne se gagne pas comme une course. Il se reçoit dans la simplicité et la reconnaissance. Et dans, je dirais, une façon douce de vivre en paix et en douceur avec sa propre vie et avec les événements de sa vie. Quand je suis heureux, je ris. Quand je suis dans le deuil, je pleure. Et voilà. C'est très simple, la vie du royaume. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai un ami, je me réjouis avec mon ami. Quand je prie, je suis heureux de prier. Mais la vie, c'est de prendre avec simplicité les choses comme elles viennent. Et notre Église, notre communauté, justement, nous pensons qu'elle n'est pas faite des professionnels de la foi. Contrairement à certaines églises dites confessantes ou certaines églises de type évangélique, qui vont dire l'Église, c'est ceux qui donnent leur foi à Jésus-Christ et qui tout entier sont dans le service du Christ. Notre communauté, elle est faite de tout, de gens qui sont des bons pratiquants, des gens qui pratiquent moins, des gens qui ont une grande foi, d'autres qui n'en ont pas. Notre communauté n'est pas faite seulement de ceux qui donnent 10% de leurs revenus à l'Église. Elle est faite de tout le monde, de tous ceux qui veulent bien venir, entrer et écouter. Et je suis même heureux que l'on puisse être membre de l'Église de l'Étoile sans être baptisé. Aucune condition que simplement dire « Jésus-Christ est mon Seigneur ». Ça, c'est une belle chose. Parce que je ne crois pas que, je dirais, la contrainte morale puisse rendre meilleurs les gens. S'il faut une morale, d'accord, il en faut bien une, parce que sinon tout irait à volo. Mais on ne devient pas meilleur par une contrainte morale, ni en s'imposant des règles et des lois, ni en culpabilisant les gens, ni en leur disant qu'ils sont mauvais. Moi, j'ai confiance dans la puissance de l'Évangile et de l'Esprit pour nous transformer. Et donc, on peut lever la garde. C'est ça que je veux dire. On peut lever la garde et, au moment de l'Avent, juste dire, eh bien, je vais laisser simplement le Saint-Esprit œuvrer en moi. Laissez juste le Saint-Esprit entrer en vous et vous transformer. Ce n'est pas une bataille. Nous sommes dans les nouveaux temps messianiques, dans une nouvelle ère de création. Et comme vous ne vous êtes pas créé vous-même physiquement, la vie vous a été donnée. De même, la vie nouvelle, ce n'est pas à vous de vous la construire, mais vous la recevez de votre Créateur, pour peu que vous le laissiez agir en vous. Et ça me fait penser à un jeune qui récemment, psychologiquement, n'allait pas très bien, et me disait « J'ai peur de m'endormir parce que je vais perdre la maîtrise de moi-même et le diable risque de s'emparer de moi. » Je lui dis « Ben non, voilà, vous avez un puissant sauveur qui a déjà tout vaincu, tout gagné, tout dépassé. Et donc vous pouvez dormir en paix, frères et sœurs. Laissez-vous aller et laissez simplement Dieu agir en vous. Et donc réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, mais laissez-vous aller dans une religion de tranquillité et une religion de paix et de confiance. Il faut juste accepter la parole avec douceur et simplicité. Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ainsi, j'aurais tendance à penser même que, finalement, je crois que Calvin s'est trompé. Calvin, c'est l'image de Jean-Baptiste. Vous avez entendu cette confession de foi terrible de Calvin. Nous confessons et reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs enclins au mal, incapables par nous-mêmes d'aucun bien et qui transgressons jour après jour et de maintes manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Ça, ça rigole pas. Eh bien, ça n'est pas la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je l'ai trouvée, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ma religion, c'est le psaume 23, plus que le colloque de Poissy, sur ce point. Et Jésus lui-même, il est comme l'image d'Élisée, qui succède à Élie, qui finalement va faire un peu la même chose, mais sans la violence. Et Élisée comme Jésus, ou Jésus comme Élisée plutôt, va ressusciter un mort, va multiplier les pains. Et comment accueillir ce Jésus-Élisée? Eh bien, en faisant simplement comme la femme sunamite dont il a guéri l'enfant. Jésus venait chez elle, et un jour elle dit à son mari, « C'est sympathique qu'il vienne toujours chez nous, ce prophète-là, c'est une bonne idée. On va construire une petite chambre pour lui, pour qu'il y ait sa place et qu'il y soit comme chez lui. » C'est ce qu'ils vont faire. Et Élisée va venir régulièrement chez ces gens. Et c'est comme ça qu'il finira par guérir leur enfant et par les sauver eux-mêmes. Eh bien, nous devons faire la même chose. Pas de combat, simplement laisser une place au Christ dans notre vie pour qu'il puisse lui-même venir nous donner la vie. Et la période de l'Avent, c'est d'accueillir le Messie, de l'accueillir là encore comme un petit enfant, pas comme un championnat de bonnes œuvres, comme un petit enfant. Et je dirais que la période de l'Avent, c'est comme les parents qui préparent la chambre de bébé. Il y a une petite boule de tendresse et de douceur qui vient dans votre vie, ça va déranger un peu les choses, mais c'est la vie, c'est la joie, c'est les rires, c'est toute la merveille, je dirais, de la vie. Eh bien, préparez cette petite chambre pour l'accueillir et laissez cette vérité du Christ transformer votre vie. Et certainement, vous trouverez là le repos, la joie, la paix et la vie. Amen.